Le regarder, nous avons mois de mars, n'est-ce pas? Ça kakoui, hein? N'est-ce pas? Mais que le Seigneur nous accorde à chaque instant, à chaque moment, de capter sa grâce. Même si le temps file, nous avons plus que besoin de lui. Amen. Alors, nous allons cette semaine aborder à nouveau notre semaine de prière mensuelle. Le mois prochain, nous aurons un temps de jeûne particulier, mais ce mois-ci, encore une semaine de prière autour de la thématique suivre. Vous allez recevoir les informations cet après-midi sur WhatsApp. Mais en tout cas, sachez que tous les matins, nous serons là à 5 heures du matin, n'est-ce pas, Stella? sur Zoom, pas ici. Et puis le mardi soir et le jeudi soir, nous aurons des temps de prière particuliers. Donc, vous avez les informations. Suivre Jésus. Chaque année, je ne sais pas si vous le savez, mais au mois de janvier, les salles de sport sont remplies. Peut-être même au mois de septembre aussi, n'est-ce pas? Je vois que certains rigolent. Ça concerne certains, hein, qui ont payé un abonnement peut-être. Parce que tout le monde veut se remettre en forme. Tout le monde veut changer. Tout le monde veut retrouver, n'est-ce pas, la belle silhouette. Mais en février, la moitié a disparu, hein, n'est-ce pas? Et la question, c'est au mois de mars, là, maintenant, combien de personnes y restent? Pourquoi? Pourquoi, chers frères et sœurs? Peut-être parce que tout le monde veut voir un résultat, mais peu sont prêts à payer le prix de l'effort. Ça vous dit quelque chose? Même dans notre vie chrétienne, n'est-ce pas? Beaucoup veulent les bénédictions de Jésus. Beaucoup veulent recevoir quelque chose de Jésus, mais peu sont prêts à accepter le prix de la vie du vrai disciple. Et c'est exactement dans le texte que nous allons voir aujourd'hui ce que le Seigneur est en train de nous dire. Jésus veut parler du prix à payer pour le suivre dans Luc, le chapitre 14. Vous pouvez ouvrir vos Bibles. Luc, le chapitre 14. Nous sommes à une période où Jésus a commencé donc son ministère et partout là où Jésus passe, les foules sont nombreuses à le suivre. Il y a des malades qui sont guéris, il y a des démons qui sont chassés, des vies qui sont transformées. On raconte même l'histoire d'un homme possédé qui a été délivré avec des simples mots « tais-toi et sors ». Et tout cela s'est transmis dans toute la contrée et qui fait que de plus en plus, il y a des personnes qui veulent suivre Jésus. Des multitudes qui veulent écouter ses enseignements, qui veulent être guéries. Nous le voyons dans Luc 5, nous le voyons dans Luc 6, Luc 7. Et les foules sont émerveillées et glorifient Dieu, yo content. Yo qu'à suivre Jésus. Enfin, ils pensent suivre Jésus. Et à Naïm, il y a une grande foule qui a vu un enfant mort revenir à la vie et a proclamé « un prophète s'est levé parmi nous ». Luc chapitre 7. Maintenant, qu'est-ce qui se passe concrètement? C'est qu'il y a ces milliers qui se pressent autour de Jésus et tout le monde est content. On a l'impression que Jésus, là, il est en train de monter sa méga-church. Ah ouais, une église remplie. Mais ce qui est surprenant au début, enfin à partir du verset 25, pour ceux qui ont déjà un petit peu parcouru ce chapitre, Luc chapitre 14, verset 25, c'est que Jésus qui a fait un bagaille là, même pas qu'à comprendre, Jésus fait quelque chose de surprenant qui change tout. Mais lisons ce qu'il est en train de faire. Luc chapitre 14, verset 25. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est retourné et leur a dit, « Si quelqu'un vient à moi et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs et même sa propre vie, il ne peut être mon. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. De peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler. » en disant « cet homme a commencé à bâtir et il n'a pas pu achever ». Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000 hommes. S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Là, s'arrête là notre lecture. Amen. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il illumine les yeux de nos cœurs encore ce matin par sa parole. Donc, vous avez vu ce qui est surprenant ici, c'est quoi? C'est que, qu'est-ce qui se passe au verset 25? Jésus s'arrête et il se retourne. Si vous avez suivi mon, et puis mon nom a tourné corps, et puis pour garder, qui m'en a senti corps? Imaginez la scène. Une foule immense qui marche derrière Jésus, et des gens qui sont fascinés par ses miracles, des gens qui sont attirés par toutes ses paroles, et émerveillé par ce qu'il a vu, et puis boudoum, Jésus soudain s'arrête et il se retourne pour parler à la foule. Beaucoup le suivent pour les bénédictions, mais ont-ils pensé au prix que cela coûte de véritablement suivre Jésus? Et les disciples, eux, ils savent, ils connaissent, ils suivent Jésus, mais ils ont payé le prix, parce que certains ont dû, n'est-ce pas, laisser leur outil de travail en laissant leur bateau de pêche, n'est-ce pas? Certains ont dû laisser leur activité habituelle pour pouvoir être à 100% à temps plein avec Jésus. Mais la foule qui suit, elle ne sait rien. Et Jésus, en quelque part, est en train de leur dire, « Zotka suive-moi, mais seulement, est-ce Zot save sa Zotka fait ?» Zotka vini l'église, mais seulement, est-ce que Zot save sa Zotka fait ? Jésus va donner ici trois vérités radicales sur la vie de l'authentique disciple, du véritable disciple. Et il commence par une première vérité radicale. Et je le dis comme il le dit, suivre Jésus, c'est haïr. Suivre Jésus, c'est haïr. Alors, lorsque Jésus déclare, je répète hein, le verset, « Si quelqu'un vient après moi, le verset 26, et ne hait ni son père, ni sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. » Jésus choisit volontairement de taper là où ça fait mal, et de taper fort, et d'utiliser un langage volontairement radical. Et dans ce contexte, haïr, c'est pas que ça signifie de nourrir de la haine contre quelqu'un, mais ça signifie tout simplement préférer moins. Et ici, l'utilisation de ce mot est assez fort pour montrer qu'il y a un ordre de priorité. Priorité. Dans ce contexte, en fait, haïr, je vous l'ai dit, ça ne signifie pas nourrir la haine. Moi, nous posons en question au matin, qui ça qui plie un port en bas? Qui ça qui plie un port en bas? Jésus est en train d'affirmer ici que le disciple doit placer sa relation avec Dieu au-dessus de toutes les autres relations et de tous les autres engagements. Autant dire qu'ici que Jésus met les pieds dans le plat. Et parce que, tout simplement, dans cette société juive, la notion de famille, non seulement était au centre de la vie du pays, mais la notion de famille était quelque chose de sacré auquel il ne fallait pas toucher. Prenez par exemple un fils qui, va grandir dans la maison, il va rester attaché, très attaché à la maison de son père, même s'il se marie, et il va servir dans la maison de son père, et tout cela parce qu'il y a un sentiment de forte loyauté entre le père et le fils. Donc en fait, c'est comme un clan, et il ne faut pas déroger à la règle, il faut pouvoir rester dans le clan. Et quand Jésus dit que le disciple doit le placer avant sa famille, Jésus est venu tout casser en quelque part. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il touche à la loyauté la plus sacrée dans cette culture. Et ici, ce qui veut dire en fait que suivre Jésus, c'est un engagement total, un engagement complet où Jésus devient le centre de toute la vie. Vous savez, on raconte que les dompteurs, vous avez l'image ici, Quand ils entrent dans une cage, ils entrent avec plusieurs objets. Avec un fouet, vous avez déjà vu ça? Avec un pistolet, on ne sait jamais. Mais aussi avec un simple tabouret. À quoi sert ce tabouret? Est-ce que vous avez une petite idée? Pas vraiment. En fait, comme vous voyez ici, le dompteur va prendre le tabouret et va le pousser devant le lion. Et les quatre pieds qui sont dirigés vers son visage, en quelque part, le lion, il va essayer de fixer les quatre pieds en même temps. Mais comme il ne va pas vraiment y arriver, qu'est-ce qui va se passer? Son attention va se disperser. Et tout ça va devenir un peu confus pour lui et ça va presque le paralyser, l'anesthésier. Et le dompteur, en quelque part, n'a même pas besoin de frapper l'animal parce que la confusion suffit à le maîtriser. Chers frères et sœurs, il en est de même pour nous. Confusion. Quand notre cœur est partagé entre plusieurs priorités, quand notre cœur est dans tous les sens, il est difficile de se concentrer sur quelque chose. Il y a le travail, il y a la famille, il y a les loisirs, il y a l'argent, il y a les biens, il y a tout ça. Et notre attention, elle est perturbée. Et c'est là la confusion, parce qu'il n'y a pas de focalisation. Un cœur qui est partagé devient un cœur qui est anesthésié, un cœur qui est bloqué. Tu es là, mais tu n'es pas là. Ou là ou pas là. Et j'aimerais donner trois exemples, mais il y en aurait tellement à donner. Trois exemples, la notion de famille ici. Alors bien sûr, ce n'est pas comme dans cette période des premiers siècles pour Israël, pour les Juifs du premier siècle. Mais vous savez, quand la famille, elle est très présente, voire même trop présente, parfois la famille peut influencer nos choix plus que Dieu lui-même. Est-ce que vous m'entendez ? Parce que le lien familial peut être très fort, et puis il y a des traditions, il y a des habitudes dans une famille, ou bien parfois ce sont les attentes des parents. Les parents ont quand même des rêves pour leurs enfants, et puis même passé à l'âge adulte, il y a ça qui s'investit, et puis il y a comme une pression de la logique de clan ici. Et la famille, ça peut être une richesse extraordinaire dans nos relations, dans nos échanges, dans nos partages, mais la famille peut aussi devenir une chaîne. Chers frères et sœurs, on peut se retrouver bloqué, limité, juste par loyauté à notre famille que l'on aime. Et Jésus utilise ici le mot fort, haïr, je le dis encore, non pas pour rejeter, mais pour savoir choisir nos priorités. Parce que l'évangile nous rend libres de toute pression, chers frères et sœurs. Suivre Jésus, c'est aussi dire, je vous aime, chère famille, mais je choisis d'obéir à Dieu. Amen. Et Dieu passe avant la pression de la famille. Combien de personnes je vois, parfois même dans le cadre de nos églises, qui ont le désir de servir le Seigneur, ont le désir d'avancer, d'être libérés. Mais il y a parfois beaucoup de liens de loyauté avec la famille, en voulant bien faire, en voulant même appliquer la parole de Dieu, mais qui sont comme dans des liens qui empêchent d'avancer, qui empêchent de progresser, qui empêchent d'entrer dans un appel spécifique que le Seigneur a donné. Dieu passe avant la pression de la famille. Un autre exemple. Aujourd'hui, nous vivons dans une période de dispersion permanente. Je ne sais pas si vous avez observé, mais il y a des études qui montrent que notre capacité de concentration diminue de plus en plus avec les nouvelles technologies. Et nous avons du mal à rester attentifs longtemps. Et cela a forcément un impact sur notre vie spirituelle et notamment sur notre vie de prière, qui nécessite, elle, concentration. Dans tout ce milieu, perturbé à droite et à gauche, notre vie de prière mérite de la concentration. Et entre le travail, les obligations, les messages WhatsApp, les notifications, les sollicitations numériques et tout ça, notre attention est constamment sollicitée. Résultat, notre esprit peut être partout en même temps, sauf devant le roi des rois, devant le trône de grâce, sauf devant notre Dieu. Et j'aimerais dire de manière assez claire, c'est que notre cœur dispersé finit par devenir un cœur spirituellement affaibli. À force d'être dispersé comme ce lion entre les quatre pieds d'une chaise, il finit par être anesthésié. Et plus, en quelque part, le temps passe, plus tu deviens de plus en plus faible et loin de Dieu, parce que ton attention n'est pas focalisée sur Dieu. Suivre Jésus, c'est décider chaque jour, oui, Dieu aura du temps dans ma vie. Et chers frères et sœurs, c'est une décision à prendre. On va le voir tout à l'heure. Dieu passe avant les dispersions du quotidien. Que le Seigneur nous éclaire sur ce sujet. Un autre domaine où on peut être paralysé par manque de priorité, par manque de concentration, ce domaine, souvent, nous faisons très attention à ce que les autres pensent de nous. Et parfois, on veut tellement être accepté que l'on vit avec la peur du regard des autres. On se demande, mais qu'est-ce qu'ils vont dire ? Certains n'osent pas dire qu'ils sont enfants de Dieu dans leur travail, dans un groupe d'amis, de peur d'être moqués par ceux qui sont autour. D'autres évitent de prier peut-être en public, même au cœur de leur famille, parce qu'ils ont peur d'être jugés ou encore d'être incompris. Parfois, on sait qu'une situation n'honore pas Dieu, on sait que ce n'est pas à la gloire de Dieu, mais on a peur de dire « c'est bon, maintenant j'arrête, c'est bon, je ne vais pas continuer avec toi ». Ça peut être par exemple des situations tout simplement de concubinage où on sait, quand on s'est approché vers Dieu, que ce n'est pas à la gloire de Dieu. Mais voilà, pour ne pas déplaire, on reste là. Ou encore, on préfère suivre des habitudes du groupe plutôt que de chercher à savoir « mais qu'est-ce que Dieu me demande et où est-ce que je dois aller ?» Suivre Jésus, chers frères et sœurs, ça signifie d'être mal compris, d'être critiqué, d'être mis à part, mais de choisir de suivre la voie de Dieu. Un vrai disciple garde ses priorités et il préfère plaire à Dieu plutôt qu'aux hommes. Amen. Parce qu'un cœur partagé, chers frères et sœurs, entre Dieu et le reste, finit par toujours perdre Dieu. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Un cœur qui est partagé entre Dieu, Dieu a une petite place, il finit toujours par perdre Dieu. Il finit toujours par perdre sa direction. On a parlé de famille trop présente peut-être. On a parlé de distraction permanente, du peur de regard des autres. Ça peut être la pression des amis. Ça peut être le fait de la course à toujours chercher plus d'argent. Ça peut être les réseaux sociaux qui volent notre attention. Ça peut être aussi les blessures du passé qui sont là et qui prennent le dessus dans notre cœur. Ça peut être des habitudes ou tout simplement des addictions qui nous enchaînent. Mes chers frères et sœurs, quand notre cœur est dispersé comme cela, nous nous éloignons de Dieu sans concentration, sans focalisation. Tu ne peux pas être un disciple. Et c'est exactement ce que Jésus est en train de dire là ce matin. Tu ne peux pas être un disciple. Si tu ne comprends pas, si tu ne saisis pas la notion de se haïr qui n'est pas à rejeter les autres, mais qui est préféré, concentré, focalisé sur Dieu et sur ce qu'il veut pour ta vie. Et les années vont passer, mais tu ne vas pas grandir, car un cœur dispersé ne peut pas suivre Jésus de tout son cœur. Alors Jésus t'appelle aujourd'hui, à travers ce mot « haïr », à replacer ta première priorité sur Jésus seul. Que Dieu nous aide, chers frères et sœurs. Amen. Mais Jésus ne s'arrête pas là. Et ceux qui ont déjà regardé la suite du passage, il continue. Qu'est-ce qu'il dit au verset 27 ? Celui qui ne porte pas ça et qui ne me suit pas ne peut être mon... Alors, ici, on est dans une expression qu'on croit connaître. Une expression que l'on croit connaître. En fait, ce qui se passait, c'est qu'au 1er siècle, la crucifixion était une peine qui était réservée aux criminels les plus méprisés et aussi aux esclaves. Et les condamnés devaient porter eux-mêmes la poutre de leur croix jusqu'à... comment dire, au lieu où ils allaient être crucifiés, exécutés. Porter la croix, donc, signifie, donc déjà, on peut dire, marcher vers la mort. Et donc, il y a aussi le poids de la honte qui est là, et sous le regard de tous. Et ce n'est pas pour rien que Jésus va évoquer cette réalité très concrète. Parce que là aussi, il va dire que celui qui ne porte pas sa croix ne peut être mon. Le suivre, c'est accepter en quelque part, et c'est là la bonne nouvelle du jour. Suivre Jésus, c'est accepter le rejet. Suivre Jésus, c'est accepter aussi la persécution. C'est accepter la mort, voire même accepter la mort si c'est nécessaire. Alors là, on va déjà un peu loin quand même. Hein? Mais c'est une réalité historique et on va y venir dans quelques instants. Le vrai disciple est prêt à renoncer à lui-même. Et il est plutôt prêt à renoncer à lui-même et pas à renoncer à Jésus, ni à renier Jésus. Porter sa croix signifie donc se soumettre à la volonté de Dieu, même lorsque il y a la réalité des souffrances, même quand ça entraîne des souffrances, le fait de choisir de suivre le Seigneur. Et le disciple fait un choix qui est radical, rester fidèle à Christ, quelles que soient les conséquences. Et j'aimerais attirer votre attention. Cette parole n'invite pas seulement, parce que c'est notre mauvaise compréhension du fait de porter sa croix, il ne s'agit pas simplement d'accepter les difficultés de la vie. Ce n'est pas ça l'enjeu ici. Parce que parfois, nous voyons la croix comme tout simplement nos épreuves quotidiennes. Je porte ma croix. Ah, bagaille-là, raide. Bagaille-là, pas facile. Yo, pain, mais moins. N'est-ce pas? Et puis, comment dire? Tout cela avec une forme de victimisation. Parfois aussi, je porte ma croix parce que je suis en train de lutter vis-à-vis du péché. Le sens que Jésus donne n'est pas ici. Ici, la croix, c'est avant tout le prix que tu acceptes de payer parce que tu témoignes du Seigneur. Parce que tu t'es identifié à lui et que tu fais l'œuvre qu'il t'a appelé à faire. Parce que tu parles de Jésus. Tu choisis de porter ta croix, même si on te moque. Même si Yoka rit et tout. Et c'est ça, porter sa croix. Parler de Dieu dans les rues. Même recevoir du mépris. D'ailleurs, tu peux venir avec nous samedi 28. Nous serons dans les rues du Gros Morne et nous allons tous ensemble porter la croix, n'est-ce pas?
Amen.
Amen. Oui. Donc, on a tendance à recentrer les choses sur nous et notre petite personne et notre petite difficulté. Quand Jésus parle de porter sa croix, il dit, mais fais ce que moi-même je fais, en quelque part. Mais même s'il le dit un peu en avance, puisqu'il ne s'agissait pas encore de sa crucifixion ici. Mais il parle le fait de s'identifier à lui et de pouvoir témoigner du message du Père. Qui en ce matin porte sa croix? Qui va lever sa main? Qui porte sa croix ce matin? Ah! Suivre Jésus, ça signifie accepter de marcher sur le même chemin que lui, là où il a été méprisé, là où il a été rejeté. Et je ne sais pas si dans cette foule massive qui est en train de suivre Jésus, qui est comme un culte bondé du dimanche matin, je ne sais pas si dans cette foule, il y a quelqu'un qui a accepté de porter sa croix. Vous savez, dans l'histoire de l'Église primitive, les premiers disciples ont compris cette parole. Ils l'ont compris à travers leur vie, ils l'ont compris à travers la vie des autres apôtres, et d'une manière très concrète et d'une manière très profonde. Selon les traditions historiques et les plus anciennes, est-ce que vous savez que Pierre aurait été crucifié à Rome sous l'empereur Néron vers les années 64-67? Et la tradition rapporte qu'il a demandé même à être crucifié la tête en bas, en ne se jugeant pas digne de mourir comme son Seigneur. Jacques aussi, le frère de Jésus et le premier apôtre martyr qui est mentionné dans le Nouveau Testament, acte 12, verset 2, rapporte qu'il a été exécuté par l'épée sur ordre du roi Agrippa, Hérode Agrippa Ier. Thomas, lui, selon les traditions anciennes de l'Église orientale, aurait été mis à mort, lui aussi en Inde, après avoir annoncé l'Évangile. On peut parler d'André, on peut parler de Paul aussi. Paul qui aurait été décapité. Voilà ce que la tradition nous rappelle, la parole de Dieu, mais aussi la tradition. Et même si, comment dire, certains détails proviennent de ces traditions anciennes, mais ça correspond à exactement ce que Jésus va leur dire, n'est-ce pas, dans Matthieu chapitre 24, le verset 9. Il est dit, « Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. » et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. » Les apôtres, eux, dans leur temps, ont compris que suivre Jésus pouvait signifier aussi perdre leur vie. Et ils ont préféré perdre leur vie plutôt que perdre le Seigneur. Alors aujourd'hui, pour nous, qu'est-ce qu'il reste de cette expression ? Qu'est-ce qui reste de toute cette histoire ? Cette expression qui, d'ailleurs, dans nos églises, on ne l'entend pas forcément toujours, porter sa croix. Aujourd'hui, nous sommes dans la génération, n'est-ce pas, de l'ambition personnelle, du développement personnel, et ça touche l'Église. On insiste sur le fait de développer toutes sortes de capacités pour pouvoir vivre de façon, je dirais, pleine et entière, mais on oublie la valeur de ce que veut dire porter sa croix. On suit la logique de ce monde. Et probablement parce qu'il y a un malentendu dans le langage courant. Porter sa croix veut dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, supporter des épreuves difficiles. Et peut-être que c'est cette image qu'on a donnée, n'est-ce pas, de la foi chrétienne. Donc à un moment donné, il fallait s'en libérer. Mais porter sa croix, chers frères et sœurs, c'est accepter toutes les conséquences de ma fidélité au Seigneur. Les choix radicaux que je vais faire et les pertes que je vais avoir parce que je choisis d'être le disciple du Seigneur. Et parfois, on peut être incompris par sa famille, par ses amis. On peut aussi refuser certains grands compromis qui semblent normaux pour d'autres. Par exemple, tout simplement refuser de tricher au travail, refuser de vivre les mêmes fêtes que les autres, refuser certaines pratiques, refuser certaines paroles pour dire « attention, je suis là ». Pas des bêtises, attention, n'est-ce pas ? Refuser ce que tout le monde fait. Rester fidèle à l'Évangile, même quand cela coûte, et c'est ça, porter sa croix. Porter sa croix, c'est accepter que suivre Jésus n'est pas toujours confortable. Alléluia, et c'est la bonne nouvelle du jour. Et honnêtement, dans notre génération, on a du mal avec cela. Pourquoi ? Parce qu'on veut Jésus, mais sans renoncement. On veut suivre Jésus, mais on veut garder toutes nos habitudes. On veut suivre Jésus, mais on ne veut pas d'opposition, on veut être bien avec tout le monde. On veut suivre Jésus, mais on veut que personne ne nous critique. On veut suivre Jésus, mais sans sacrifice. On veut la bénédiction, mais on ne veut pas payer le prix. Mais Jésus est clair, le chemin du disciple passe par la croix. Et ça veut dire clairement dire non à certaines habitudes. Quand tu viens au Seigneur, quand tu t'approches de lui, il y a des transformations qui s'opèrent. Dire non à certaines pressions qui sont sur toi. Non, je choisis d'obéir au Seigneur. Dire non aussi à certains compromis. Porter sa croix n'est pas simplement, je l'ai dit, accepter une souffrance parce qu'on a eu cette habitude de supporter. Porter sa croix, c'est endosser l'identité de Christ et l'annoncer et supporter toutes les difficultés qui viennent derrière. Et nous savons que la croix en elle-même n'est pas une fin, parce que nous sommes assurés de la résurrection du Seigneur. Amen. Et c'est pour ça qu'on peut avancer avec confiance. Celui qui marche avec Christ sur le chemin de la croix marchera aussi avec lui dans la gloire. Alléluia. Merci Seigneur. Alors suivre Jésus, chers frères et sœurs, c'est aussi, et c'est la dernière parole qu'il nous donne ici, c'est aussi calculer le coût. Regardons ce qu'il dit, verset 28 et verset 31. « Lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer ?» Ou encore, verset 31, « Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut ?» Chers frères et sœurs, j'aimerais te dire que tu n'es pas une plante, tu n'es pas un arbre. Alors tu vas te dire, mais pourquoi je dis ça ? Parce que tu n'es pas simplement en train de dépendre de la pluie et du soleil pour pouvoir grandir. Dieu a prévu plus pour toi. Tu es une créature faite à l'image de Dieu, capable de réfléchir, capable d'agir, capable de choisir. Et c'est pourquoi Jésus dit, « Qui de vous ne s'assied d'abord pour calculer la dépense ?» Il n'y en a pas qu'on assise pour savoir côté où qu'à aller et qui dépense ou qu'a choisi fait. Autrement dit, réfléchis avant de t'engager. Réfléchis avant de t'engager. Quand on fait un projet sérieux, est-ce que nous calculons ? N'est-ce pas ? Qui ici ne fait jamais son budget? Qui ici fait son budget tous les ans? Ah, il y a un petit souci là. Hein? Qui construit une maison sans regarder combien cela va coûter? Avant d'entreprendre quelque chose, chers frères et sœurs, d'important, on s'arrête, on se pose les bonnes questions. Et Jésus ici nous invite à faire la même chose pour notre vie de disciple. Je suis en train de vous dire que le oui que tu as dit au Seigneur lorsque tu as dit « Oui Seigneur, je t'accepte dans ma vie », le oui que tu exprimes de façon publique à travers ton baptême, eh bien, à un moment donné, il faut aussi t'asseoir et savoir quelles dépenses tu vas faire pour aller plus loin. Et comme on l'a dit tout à l'heure, si il n'y a pas de dépenses, si il n'y a pas cette notion de sacrifice, s'il n'y a pas un coût à payer, tu vas rester au même point toute ta vie. Parce qu'il n'y a pas d'orientation, il n'y a pas de direction. Les questions à se poser, c'est qu'est-ce que je devrais laisser derrière moi? Qu'est-ce que je dois abandonner? Y a-t-il des habitudes, y a-t-il des dépendances, y a-t-il des péchés auxquels je dois renoncer? Qu'est-ce qui doit changer? Quelles sont les relations qui doivent évoluer? Quelles relations peut-être dois-je arrêter qui ne sont pas constructives pour moi? Est-ce que je suis prêt à rester fidèle à Dieu même quand certains vont s'éloigner de moi parce qu'ils ne vont pas me comprendre? Comment vais-je organiser ma vie pour Dieu? À partir de maintenant, si je veux grandir, si je veux voir des choses changer dans ma vie, est-ce que je vais vraiment prendre le temps chaque jour pour prier et pour lire la parole de Dieu? Est-ce que je vais prendre le temps de m'asseoir et de calculer le coût? Et le coût, quel coût je dois dépenser ici? En termes de temps, en termes d'investissement, peut-être en termes d'argent aussi, pour voir ma vie grandir. Et comme vous l'avez vu dans le titre tout à l'heure, la vie que Dieu nous donne est une grâce extraordinaire. Mais il faut payer le prix pour pouvoir la vivre. Il nous l'a donnée, ça c'est gratuit. Mais pour pouvoir la vivre profondément, il faut payer le prix. Et c'est ce que Jésus est en train de nous dire ici. Alors qu'est-ce que je vais faire de mon temps? Est-ce que je vais continuer à vivre comme avant ou est-ce que je vais changer mes priorités au risque d'être incompris? Mais si je ne le fais pas, au risque de ne pas voir ma vie spirituelle avancer. Et c'est pour ça que j'ai posé la question tout à l'heure. Qui ça qui plie un porte en bas? Une autre question qui n'est pas facile. Qu'est-ce que je fais de mon argent? Est-ce que je suis prêt à honorer Dieu aussi dans mes finances? Qu'est-ce que je fais de mon cœur? Est-ce que je suis prêt à laisser Dieu transformer mes pensées, transformer mes paroles, transformer mes choix? Ce que je suis en train de te dire ici, c'est que suivre Jésus n'est pas une décision à la légère. Parce que beaucoup commencent par construire la tour d'une nouvelle vie en Christ. On parle de conversion et on parle de baptême, on parle de nouvelle naissance. Mais tout cela peut devenir, chers frères et sœurs, une illusion spirituelle. Converti, baptisé, venant à l'église, mais la vie n'a pas vraiment changé. Et une manière de dire qu'il y a une tour qui a été montée, mais cette tour-là, mais comme on n'a pas pris le temps du jeûne et de la prière, comme on n'a pas pris le temps de savoir, mais finalement, qu'est-ce que je dois changer dans mes habitudes au quotidien pour réellement investir pour le royaume et laisser ce royaume grandir en moi? Les années passent et on ne grandit pas. Et Jésus dit que certains commencent mais ne finissent jamais. Et d'autres rentrent dans une guerre spirituelle. C'est l'autre image. Il y a l'image de la tour, mais il y a aussi l'image de la guerre. Et donc, on rentre dans une guerre spirituelle. Il y a une réalité et l'ennemi, j'aimerais vous dire, ne veut pas nous voir réussir dans notre marche avec Dieu. Ou pas qu'à rentrer dans un combat sans bâton. Et si on ne calcule pas le prix, eh bien, on abandonne facilement. La tour reste inachevée. La bataille reste perdue. Et malheureusement, cela devient parfois un sujet de moquerie. Il connaît bon Dieu, hein? Mais gardez la vie. Et c'est pourquoi Jésus insiste, il est essentiel d'évaluer le coût. Et c'est ce que Jésus est en train de dire ici. Non pas pour nous décourager, chers frères et sœurs, mais pour nous engager avec sérieux. Parce que lorsqu'on est embauché dans une entreprise et qu'on veut garder le travail, on fait tout pour bien faire le travail, hein, n'est-ce pas? pour qu'on ne nous vire pas à la première difficulté, pour montrer la valeur de notre travail. Eh bien, quand on appartient au Seigneur, quand on a reçu cette grâce extraordinaire d'être enfant du roi des rois, eh bien, le Seigneur nous appelle à nous engager avec sérieux, avec lucidité et avec détermination, même si on ne maîtrise pas tout, même si on ne comprend pas tout, mais on sait qu'il faut investir. J'aimerais vous donner une petite parabole moderne de deux hôtesses qui sont deux hôtesses de l'air, qui sont appelées dans le cockpit. Donc, il y a le commandant, mais c'est un petit avion. Et le pilote leur dit, voilà, l'avion va bientôt se crasher. Vous inquiétez pas, vous distribuez les parachutes aux passagers, mais vous faites ça calmement pour ne pas provoquer de panique. Et les deux hôtesses discutent alors de la manière de procéder. Et la première va dire, mais nous allons dire aux passagers que les parachutes rendront leur voyage plus confortable. Comme ça, ils vont le mettre et ils vont le garder. Et la seconde hôtesse a dit non, mais disons-leur la vérité, l'avion va se crasher tout simplement et ils vont devoir sauter pour sauver leur vie. Si les passagers prennent le parachute seulement pour être plus confortables, qu'est-ce qui va se passer ? À un moment donné, ils vont l'enlever parce que tout simplement, un parachute, c'est lourd. Et peut-être c'est désagréable à porter alors qu'on est assis, n'est-ce pas? Mais s'ils savent que leur vie dépend du parachute, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont la garder malgré l'inconfort. Et une manière de dire que beaucoup suivent Jésus parce qu'ils pensent que la foi va simplement rendre leur vie plus facile, mais t'as la pas vrai, hein? Jésus dit, avant de me suivre, calcule le coût. J'aimerais te dire que suivre Jésus, c'est exigeant. Et parfois, ce n'est pas confortable. Et parfois, tu te retrouves, à faire des choses où tu te dis, non, mais j'aurais aimé faire autre chose, mais le Seigneur te conduit là parce qu'il veut te former, il veut t'équiper et il veut se servir de toi de façon toute particulière. Je l'ai vécu plusieurs fois. Et j'ai appris progressivement à ne pas me plaindre. J'ai appris progressivement à dire, Seigneur, ta grâce. Seigneur, fais ton œuvre. Parce qu'il s'agit de toi et pas de moi. Et parfois, c'est inconfortable de servir le Seigneur, mais c'est le seul chemin pour la véritable vie, pour que tu ne perdes pas ta vie. Et soyons honnêtes, pour certains, eh bien, le coup est plus difficile. Ça, c'est des choses qu'on ne dit pas souvent. Mais pour certains, suivre Jésus, il y a un coût plus difficile que pour d'autres. Il y a des sacrifices plus grands à faire pour certains que pour d'autres. On parlait de famille tout à l'heure. Certains ont grandi dans des environnements où, certaines pratiques étaient normales. Peut-être il y avait l'alcool, peut-être il y avait des relations qui étaient toxiques, qui étaient compliquées et ils n'ont pas reçu tout l'amour qu'ils devaient avoir. Il y avait des paroles qui étaient dures. Il y a peut-être aussi des rancunes familiales et ils ont grandi dans ce cadre-là. Et suivre Jésus va leur demander de rompre avec tout cela, avec ses habitudes, pour apprendre à se laisser remplir de l'amour agapé, pour choisir un autre chemin, même si l'entourage ne comprend pas, mais pouvoir faire une réinitialisation en Christ. Pour d'autres, ça peut être tout simplement... On a parlé du travail tout à l'heure, au travail avec les amis où il y a des personnes qui se moquent de leur foi et donc il y a nécessité ici de pouvoir assumer pleinement son identité. Et suivre Jésus demandera du courage ici. Nous sommes tous, partons de réalités différentes. D'autres peut-être ont grandi aussi peut-être avec l'idée que voilà, il faut se battre pour pouvoir gagner de l'argent, donc il faut gagner plus, il faut posséder davantage et tout ça. Et tout tourne autour du travail, autour de l'argent. Et suivre Jésus peut demander de changer la priorité et de commencer à compter sur Dieu pour qu'il puisse pourvoir. Alléluia! Focalisation, chers frères et sœurs. Focalisation. D'autres, peut-être, vivent avec des relations affectives difficiles, c'est-à-dire se retrouver dans des relations qui n'honorent pas le Seigneur. Il y a nécessité d'y mettre fin, et c'est douloureux, et c'est difficile. Mais suivre Jésus peut signifier choisir l'obéissance à Dieu, même lorsque notre cœur est attaché. Pour d'autres, ça va être des habitudes du quotidien, mais une chose reste vraie, quel que soit le coût. Et peut-être que ton coût est plus élevé qu'un autre ou que ton coût est plus bas, mais il faut payer le prix. pour pouvoir avancer avec Dieu et pouvoir déclencher la maturité avec le Seigneur. Et dans ce passage, c'est exactement ce que le Seigneur est en train de nous dire ce matin. Alors, est-ce qu'on peut regarder à nouveau cette scène? Cette foule qui est là et qui suit, cette foule massive qui suit Jésus et qui est tout heureux, tout fasciné de suivre le Seigneur. Tout heureux de vivre, d'entendre des paroles merveilleuses et de voir des miracles extraordinaires. Et on se rappelle que Jésus, lui, il se retourne. Et il se retourne et il dit, vous me suivez, mais est-ce que vous savez exactement ce que cela signifie? Jésus ne cherche pas une foule impressionnée, mais il cherche des disciples transformés, un après l'autre. Et suivre Jésus peut coûter quelque chose. Et suivre Jésus peut, ça peut nous, comment dire, tellement nous façonner, nous malaxer à l'intérieur qu'on a l'impression de tout perdre. Mais on se rend compte après qu'on gagne énormément. Parce qu'il travaille notre caractère, parce qu'il travaille notre vie et parce qu'il nous permet d'aller dans des endroits auxquels, si nous n'étions pas façonnés, nous n'aurions pas touché ces personnes. Alors il est parfois difficile de renoncer. Il est parfois difficile de choisir, de décider. Mais quand on choisit, quand on fait ce choix, quand on passe cette étape-là, le Seigneur déclenche la maturité dans nos vies. Et on commence à grandir, même si le coup peut être difficile. Je ne sais pas quelles circonstances tu es en train de vivre là. Et peut-être que tu le vis comme une épreuve, une difficulté, et puis tu demandes la grâce au Seigneur. Mais le Seigneur te dit, sois mon témoin là où tu es. Sois, un petit Christ, comme on dit, n'est-ce pas? Là où tu es. Focalise-toi sur moi. Et moi, je m'occupe du reste. Parce que je suis en train de te façonner. Je suis en train de transformer ta vie. La question, elle est simple ce matin. Est-ce que tu veux rester dans la foule ou est-ce que tu veux être un disciple? Est-ce que tu veux suivre un long courant quelque part et puis vivre quelques joies à droite et à gauche? Mais est-ce que tu veux suivre Jésus et assumer la difficulté, mais vivre pour lui intensément et te préparer jusqu'à son retour? Et peut-être que ce matin, Jésus t'appelle à remplacer tes priorités. Peut-être qu'il t'appelle à abandonner quelque chose pour qu'il ait plus de place dans ton cœur. Peut-être qu'il t'appelle à renoncer à quelque chose pour lui. Peut-être qu'il t'appelle à simplement faire le premier pas pour le suivre. Je ne sais pas où tu en es, mais j'aimerais t'inviter ce matin à suivre Jésus. Je ne t'invite pas à une vie de facilité. Moi-même, dans ma propre vie, je me pose mille et une questions. Mais Seigneur, pourquoi? Mais Seigneur, pourquoi je ne vois pas? Mais pourquoi? Pourtant, tu m'avais donné des choses étant jeune. Pourquoi je ne les vois pas comme je m'attends à les voir? Et le Seigneur me répond souvent, mais rassure-toi, c'est moi qui gère. C'est moi qui assure. Et je te permets d'être un instrument de bénédiction là où moi, j'ai choisi de le faire. Et parfois, je suis étonné à travers les différentes sphères où le Seigneur me permet d'être, de voir l'impact que ça peut avoir auprès de près des frères, des sœurs et des personnes qui reviennent me voir. Mais je vous assure, parfois, je dis, mais Seigneur, il me semble que ce n'est pas ça. Il me semble que je devrais être ailleurs. Il me semble que je devrais... Le Seigneur me dit, t'inquiète pas, je gère. Et j'aimerais te dire que ici, c'est peut-être ce qu'on ne dit pas souvent à travers la prédication de l'Évangile. Le Seigneur n'est pas là pour te permettre de te développer personnellement et d'aller au plus profond de tes aspirations profondes. Il est là pour que son histoire puisse s'écrire à travers ton histoire. Il est là pour modifier ton histoire, pour faire son œuvre à travers toi. Et j'aimerais t'inviter ici à peut-être arrêter de te poser toutes sortes de questions à travers toutes ces épreuves, mais à te poser la question, mais Seigneur, à quoi tu m'appelles au cœur de ces difficultés, au cœur de ces épreuves, afin de pouvoir vivre une véritable, comment dire, liberté intérieure, la crainte, comment dire, le désordre à l'extérieur, mais la paix à l'intérieur, parce que tu sais que tu es là où Dieu t'a appelé à être. Alléluia. Alors j'aimerais t'inviter ce matin, peut-être que ce message te concerne, tu peux simplement te lever. Tu peux simplement dire, Seigneur, oui, je choisis de te suivre. Oui, je choisis de porter cette croix. Oui, je choisis de renoncer à moi-même, de renoncer à mes biens, comme le dit le verset juste après. Je choisis, Seigneur, d'avancer avec toi. Oh, Jésus, Seigneur. Je choisis aussi de haïr tout ce qui est inutile, tout ce qui ne me permet pas d'avancer, parce que je choisis de me focaliser sur toi. Et je choisis de te laisser me remplir pleinement, comme nous l'avons chanté tout à l'heure, parce que je veux être focalisé sur toi. Et je veux, Seigneur, non pas réaliser mes propres ambitions, mais je veux, Seigneur, j'aspire à voir ton œuvre se faire à travers moi, afin que je sois un instrument entre tes mains. Alléluia. Pendant que tu passes du temps à poser toutes sortes de questions, mais pourquoi ça ne marche pas? Mais pourquoi c'est pas comme si? Mais pourquoi j'avance pas? Mais pourquoi je ne vois pas encore? Tu perds du temps. On l'a vu ces derniers temps, on a étudié Jérémie, n'est-ce pas? On a étudié certains prophètes. Le Seigneur te dit, focalise-toi sur moi et moi je vais t'utiliser. Autrement, tu ne peux pas être mon disciple. Si tu ne portes ta croix, tu ne peux pas être mon disciple. Si tu ne prends pas le temps, et peut-être que certains sont interpellés qui ont besoin le temps de faire le temps, de faire le point sur ta vie, de te poser les bonnes questions. Peut-être tu es jeune et tu te demandes qu'est-ce que tu vas faire de ta vie. Peut-être que tu es déjà un certain âge et qu'est-ce que tu vas faire du reste de ta vie. Le Seigneur nous invite à prendre le temps à calculer. Alors je ne sais pas si tu iras ouvrir un tableau Excel pour pouvoir calculer le coût de la dépense auquel le Seigneur t'appelle. Mais ce que je sais, c'est que tu dois prendre le temps de t'asseoir, de t'agenouiller et de dire, Seigneur, je t'ai dit oui à travers la conversion, je t'ai dit oui à travers le baptême, je te dis oui aussi quand je prends la scène, mais je veux réanalyser avec toi là où tu veux m'emmener, Seigneur. La direction que tu veux pour ma vie, Jésus. Alors tu peux simplement te lever et on va prier pour toi dans cet instant de prière. Qui veut payer le prix? Qui, en ce matin, veut lâcher prise et dire, Seigneur, c'est de toi dont il s'agit. Et tu sauras développer en moi toutes les compétences et les qualités que toi-même tu as déjà mis en moi pour que je sois utile pour ton œuvre. Utile, c'est vrai, à l'église, mais utile aussi au travail. La façon dont je vais assurer mon travail va rayonner pour toi. La façon dont je serai en tant que voisin va rayonner pour toi. Et l'utilité que j'aurai peut-être pour un cœur qui est fatigué, va rayonner pour toi. Oui, mes difficultés sont là, mais tu t'occupes de moi parfaitement. C'est la réalité de vie de ceux qui ont suivi Jésus. Tous leurs problèmes n'étaient pas réglés, mais ils ont choisi de suivre Jésus. Et ils ont choisi de se donner peut-être d'autres problèmes, mais au nom de Jésus, ils ont choisi de porter leur croix. Alléluia! Mais tout cela pour arriver au bout. Et selon la tradition, vous avez vu que bien sont morts, mais ils ont choisi. Mais je sais qu'ils sont avec le Seigneur pour l'éternité et ils nous attendent. Alléluia. Alors, tu peux simplement te lever là où tu es et on va prier pour toi. Oh Jésus. Oh roi de gloire. Dieu tout-puissant. Oh Jésus Seigneur. Seigneur, ce matin tu parles au cœur et nous nous sentons vraiment faibles et sans force devant toute ta grandeur. Nous nous sentons inutiles, nous nous sentons pas à la hauteur Jésus. Entre les plaintes que nous voudrons exprimer de toutes nos insatisfactions et toutes nos aspirations que nous n'avons pas encore vues se réaliser. Tout ce que peut-être tu avais mis sur nos cœurs et on n'a pas vu comme on s'y attendait. On a fait notre propre interprétation de ce que tu nous as donné. Seigneur, aujourd'hui, nous voulons mettre le moi de côté. Nous voulons renoncer à nous-mêmes. Non pas parce que, nous voulons raser les murs et être, avoir une mauvaise image de nous-mêmes. Non, tu nous as créés à l'image de Dieu. Et non seulement ça, nous avons été transformés de gloire en gloire en toi. Mais Seigneur, nous ne voulons pas prendre tous ces joyaux que tu nous donnes pour faire notre carrière, pour faire notre chemin nous-mêmes. mais nous voulons comprendre dans toutes les situations de nos vies, là où nous sommes dans notre travail, la façon dont nous gagnons notre argent, la façon dont nous rentrons en relation avec tous ceux qui nous entourent. Dans toutes ces réalités, nous voulons être imprégnés de l'identité de Christ. Alléluia. Nous voulons être focalisés sur toi afin que chacune de nos vies puisse te refléter. Alors je te prie pour mon frère, pour ma sœur qui s'est levée en ce matin, afin que tu viennes la rejoindre, tu viennes le rejoindre dans ses réalités, dans ses luttes, dans ses combats intérieurs, et que tu donnes la pleine et entière liberté, et que du plus profond des cœurs, il y ait comme un « oui, Seigneur » qui s'exprime, un « oui » qui certes devra être calculé dans, dans la prière, dans le jeûne, devra être revu, et de se dire « mais Seigneur, tu as un avenir pour chacune de nos vies ». Alors ce matin, Seigneur, je prie qu'il y ait comme un oui profond qui s'exprime des cœurs et des vies pour un renouvellement de la plénitude du Saint-Esprit dans les cœurs et les vies pour commencer à rentrer pleinement dans les plans et les projets que le Seigneur a prévus d'avance pour nous afin que nous puissions les pratiquer dans le nom de Jésus. Étends ta main, Seigneur. Et que personne de ceux qui se sont levés en ce matin ne puisse se sentir vide. Non, tu les remplis de toi. Tu les remplis de toi, tu les remplis d'une assurance surnaturelle pour qu'ils puissent être lancés comme des flèches dans les objectifs que toi-même tu leur as fixés dans le nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, tu vois là où il y a encore des embûches personnelles parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été abandonnées. Il y a des choses qui restent là comme des poids, Père éternel, et comme des dépendances, comme des lourdeurs qui sont là. Mais dans le nom puissant de Jésus, tu libères les cœurs ce matin. Et les décisions qui doivent être prises pour déclencher la maturité puissent être prises dans le nom de Jésus. Afin que les années passent et que nous puissions te refléter davantage dans tout ce que nous sommes. Même si à l'extérieur, il y a des difficultés et des épreuves. Mais qu'à l'intérieur, nous puissions, oh Seigneur, refléter qui tu es. Pour que, Seigneur, il y ait des personnes qui viennent. Moi, l'image que le Seigneur me donne maintenant, c'est un arbre qui est là. Et le Seigneur veut que nous soyons des arbres pour donner du fruit. Le Seigneur veut que nous soyons des arbres pour, donner de l'ombre à ceux qui en ont besoin autour de nous. Et le Seigneur veut nous utiliser. Et il veut travailler de l'intérieur avec toi, dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour l'œuvre que tu es en train d'accomplir dans les cœurs et dans les vies. Aide-nous à ne pas passer à côté d'être un véritable disciple dans nos attitudes, dans notre façon d'être, dans notre focalisation à travers la parole de Dieu, à travers la méditation de ta parole, à travers le fait de laisser Christ régner en nous. Viens, Seigneur. Merci pour cet instant de grâce que tu nous as donné ce matin. Et merci pour ce rappel que tu nous as donné ce matin. Merci pour ton amour qui est extraordinaire. Merci parce que ces paroles radicales de Jésus ne limite pas le fait que tu es aussi un Dieu de grâce et que tu attends que nous puissions prendre des décisions. Tu ne cesses de nous tendre la main pour dire « bouge, change, je suis là et je t'accompagnerai ». Alléluia. Que le Seigneur nous accompagne, chers frères et sœurs. Au nom de Jésus. Amen.